Le monde du commerce en ligne, vraiment, ben, il a subi une mutation super silencieuse, mais honnêtement assez brutale.
Ouais, c'est le mot « brutal ».
Tu sais, on a longtemps imaginé la frontière internationale comme un lieu physique, là. Une vraie guérite avec des inspecteurs en uniforme qui ouvrent laborieusement des boîtes en carton avec un couteau à lame rétractable, genre.
La vision très classique, ouais.
Exactement. Mais aujourd'hui, la frontière, ben, c'est plus ça pantoute. Elle n'est plus physique. Elle est devenue purement algorithmique.
Totalement numérique.
C'est ça. Le dédouanement, ça se produit en quelques millisecondes, bien avant même qu'un colis ne quitte l'entrepôt. C'est sous la forme d'un audit de données automatisé, puis complètement intraitable.
Puis c'est pour ça que la moindre erreur pardonne plus.
Ben oui, une simple erreur de frappe sur une étiquette d'expédition, c'est plus juste une petite nuisance, là. C'est littéralement un mur de briques invisible qui peut complètement paralyser les opérations d'une entreprise à l'échelle mondiale.
C'est exactement le sujet de notre source d'aujourd'hui.
Oui. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document qui illustre parfaitement cette nouvelle réalité. C'est le guide de Clickship intitulé « Valeurs déclarées exactes pour l'expédition de commerce électronique 1.0 ».
Un incontournable en ce moment.
Vraiment. Puis la mission de cette analyse approfondie, ben, c'est de décoder la machinerie complexe qui analyse chaque donnée douanière, puis de comprendre pourquoi l'exactitude chirurgicale de ces informations est devenue une question de survie commerciale.
Ouais, mais juste avant d'explorer la mécanique de ces algorithmes douaniers-là, il est vraiment impératif de poser un cadre factuel rigoureux.
Bien sûr, vas-y.
Fait que les éléments tirés de ce guide, puis abordés lors de cette analyse, sont fournis à des fins d'information générale uniquement.
Très important de le souligner.
Exact. Il ne s'agit en aucun cas de conseils juridiques, fiscaux ou douaniers. Quiconque gère des expéditions internationales a vraiment la responsabilité de vérifier les exigences légales spécifiques auprès des autorités douanières compétentes ou de professionnels accrédités avant d'exporter la moindre marchandise.
C'est super clair. Puis, tu sais, le contexte temporel, c'est d'ailleurs ce qui rend ce document si urgent en ce moment.
Ah, définitivement.
On est en juillet 2026, puis le paysage logistique a été complètement redessiné par un événement hyper précis.
Oui, le guide met effectivement en lumière une rupture sismique, genre un vrai tremblement de terre survenu le 29 août 2025.
La fameuse date.
Oui. À cette date-là, l'exemption de droits de douane pour les envois de faible valeur.
Ce qu'on appelait la règle de minimis, c'est ça?
Exactement. La règle pour les colis de 800 $ américains ou moins en provenance de n'importe quel pays vers les États-Unis, ben, elle était officiellement suspendue.
Wow! Faut vraiment mesurer l'impact de cette décision-là.
C'est majeur. Pendant des années, on avait un océan de petits colis de commerce électronique qui traversaient les frontières sans véritable friction.
Ça passait totalement sous le radar fiscal grâce à cette exemption de 800 $.
C'est ça. Les algorithmes douaniers étaient paramétrés pour ignorer ces flux-là. Mais depuis la suspension, le filet s'est resserré de manière super spectaculaire.
Ouais, chaque T-shirt, chaque étui de téléphone, chaque article promotionnel est désormais scruté, évalué et puis potentiellement taxé.
Fait que l'exactitude des valeurs déclarées, qui était autrefois une formalité un peu floue pour les petits vendeurs, c'est devenu le point de bascule.
Le point de bascule entre un colis qui arrive à destination puis un colis qui est confisqué. Tu sais, c'est plus comme envoyer une carte postale à son voisin. C'est rendu comme une entrevue d'embauche extrêmement rigoureuse avec la douane.
Une très bonne analogie, ouais.
Chaque petit détail du CV, donc l'étiquette d'expédition, est vérifié à la loupe par les autorités. Bon, décortiquons tout ça.
Allons-y.
Pour réussir cette entrevue d'embauche douanière, il faut d'abord comprendre la langue parlée par les douanes. La pierre angulaire de tout ça, le concept de base, c'est ce qu'on appelle la valeur déclarée. Comment les autorités définissent ça concrètement?
La valeur déclarée en douane, c'est vraiment la métrique absolue. C'est le chiffre à partir duquel le pays d'importation calcule ses droits, ses taxes puis les frais.
Donc, son manque à gagner.
Exact. Puis, le guide est formel là-dessus. Pour l'écrasante majorité du commerce en ligne, le point de départ, la seule base de calcul acceptable, c'est la valeur transactionnelle.
La valeur transactionnelle, OK, définie en termes simples, ça veut dire quoi?
C'est très pragmatique. C'est très exactement le prix total qui a été payé ou qui va être payé par l'acheteur final pour acquérir les marchandises.
OK. Puis j'imagine que c'est pas juste Clickship qui invente ça.
Pas en tout. L'Aignan est total à l'échelle planétaire, puis le guide cite plusieurs piliers institutionnels pour le prouver.
Comme qui, mettons?
L'Organisation mondiale des douanes, l'OMD. Ils établissent clairement que la valeur transactionnelle doit être la méthode première d'évaluation.
OK, donc au niveau mondial.
Ouais. et la Commission européenne utilise pratiquement les mêmes termes. En Amérique du Nord, l'Agence des services frontaliers du Canada, la SFC, exige exactement la même chose.
Puis j'imagine que du côté américain, c'est pareil.
Oui, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le CBP, ils insistent pour que la facture affiche noir sur blanc le prix déboursé. Le consensus est inébranlable.
Ouais, mais j'ai une objection, là. C'est une objection qu'on entend souvent chez les vendeurs, puis honnêtement, ça crée beaucoup de confusion.
Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles.
Mettons, un vendeur fabrique un produit, genre une tasse en céramique personnalisée. L'argile, la peinture, le temps de travail, tout ça lui coûte 25 $ par unité à fabriquer dans son atelier.
OK.
Mais il vend cette tasse-là en ligne pour 80 $
Ouais, pour faire un profit, normalement.
Ben c'est ça. Pourquoi il ne peut pas simplement déclarer son coût interne de 25 $ T'sais, l'objet physique, le bout de céramique, qui a coûté 25 à créer, pourquoi déclarer le profit?
Ben ça, c'est l'erreur classique par excellence. Déclarer 25 $ ça détruirait l'intégrité de la transaction aux yeux de la loi.
Vraiment?
Oui. Les systèmes douaniers s'en fichent du coût des matières premières ou des secrets de fabrication. Eux, ils taxent la valeur de l'échange économique.
Donc, le prix de vente.
Exactement. Si un client a payé 80 $ c'est que la valeur économique de l'objet au moment de passer la frontière, bien, c'est 80 $
Fait que si tu déclares 25 $ c'est comme si tu cachais de la richesse au pays de destination.
Totalement. Ça fausse complètement la perception des taxes. Ce qui est fascinant ici, c'est que les défis d'évaluation douanière à la frontière se multiplient précisément à cause de ce genre de situation.
L'OMD en parle d'ailleurs, non?
Oui, l'OMD souligne que le commerce en ligne de faible valeur, avec les rabais constants, les codes promo, les échantillons gratuits, mais ça rend le travail des douanes incroyablement complexe.
Parce qu'au lieu d'avoir un gros conteneur avec 10 000 tasses au même prix, ils ont 10 000 petits colis avec des prix tout différents.
Exactement. C'est pour ça que la règle stricte de la valeur transactionnelle est le seul point d'ancrage possible.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que comprendre la règle de la valeur transactionnelle, c'est une chose, mais la réalité des promotions en ligne, le marketing, ça pousse souvent les vendeurs à prendre de mauvais raccourcis.
Des raccourcis très dangereux, oui.
Dans le guide, on énumère des pratiques qui sont carrément considérées comme de la sous-évaluation.
Ouais, il y a plusieurs pièges.
Déclarer un prix inférieur à celui payé, comme on vient de dire, inscrire un dollar pour un cadeau, ou même, et ça je trouve ça fou, modifier la valeur à la demande d'express de l'acheteur pour lui éviter des taxes.
Oh, ça c'est très fréquent. Hein? Le client met une petite note à la commande. Hey, tu peux déclarer 10 $ au lieu de 100 pour que je paye pas de douane.
Et si le vendeur dit oui, il se rend complice de fraude.
Complètement. Mais le pire, puis il faut vraiment faire un focus là-dessus, c'est le mythe du 0 $
Ah oui, l'illusion que si le client n'a rien payé aujourd'hui, ça vaut zéro.
C'est une erreur fatale. Le guide est formel. Même les échantillons gratuits, les cadeaux d'entreprise ou les pièces de remplacement sous garantie, ça ne doit jamais, au grand jamais, être déclaré à 0 $
Mais pourquoi? Si j'envoie un T-shirt gratuit à un influenceur, il n'y a pas de transaction financière, techniquement.
Parce qu'un système douanier ne comprend pas le zéro. L'absence de transaction immédiate n'efface pas la valeur matérielle de l'objet. Un T-shirt vaut quelque chose. Une carte mère envoyée sous garantie vaut beaucoup d'argent.
Fait qu'il faut attribuer une valeur raisonnable.
Oui, une valeur raisonnable. Puis surtout, la raison de l'exportation doit être clairement identifiée.
Genre écrire échantillon ou garantie.
Exactement. L'ASFC exige une évaluation formelle, même pour les biens reçus gratuitement.
Il y a une autre pratique mentionnée dans le guide. C'est la division de commandes. Mettons, un client achète pour 1000 $ de vêtements, puis le vendeur se dit « Ah, je vais envoyer 4 boîtes de 250 $ pour passer sous le radar. »
La fameuse technique de saucissonnage!
Ouais. Ben honnêtement, c'est comme essayer de se faufiler dans un cinéma en portant un imperméable long tout en étant juché sur les épaules de quelqu'un d'autre.
Ah ah, c'est une image assez claire!
C'est tellement flagrant pour l'algorithme, puis ça finit super mal. L'algorithme voit bien que c'est la même adresse, le même jour, le même client.
Ton analogie est validée par les experts, tu sais. La liste de vérification des UPS citée dans le document est sans appel.
Ils disent quoi exactement?
Ils disent que falsifier le prix ou diviser artificiellement des commandes, c'est considéré comme une grave violation légale. Les systèmes informatiques des gouvernements relient ces envois instantanément.
Fait que les stratagèmes de ce genre, c'est illégal et inutile. La seule vraie solution... C'est une transparence totale sur la documentation.
Et le cœur de cette transparence, c'est la facture commerciale.
Le diable est vraiment dans la paperasse, hein? Qu'est-ce qui doit figurer sur cette facture pour éviter les ennuis?
Beaucoup de choses. Selon les réglementations, comme le règlement 19 CFR 141.86 pour les importations américaines, la liste est longue.
Vas-y, énumère-nous ça un peu.
Bon, les détails complets du vendeur et de l'acheteur, une description claire de chaque article, la quantité, la valeur unitaire, la valeur totale.
Jusque-là, c'est logique.
Oui, mais faut aussi la devise exacte, le pays d'origine de chaque article, le code SH, la raison de l'exportation, les frais d'expédition, puis les incoterms.
Les incoterms, c'est qui paye le transport puis l'assurance, en gros.
C'est ça. Sans ça, le douanier ne peut pas savoir si le transport est inclus dans la valeur déclarée ou non.
Mais je veux revenir sur la description des articles. Le danger des descriptions vagues, c'est incroyable. Des mots comme « marchandises », « accessoires » ou « cadeaux », ça augmente drastiquement les risques de blocage, non?
Ah, oh, c'est un aller simple pour une inspection manuelle. L'algorithme déteste l'ambiguïté. Un accessoire, ça peut être une boucle d'oreille ou un composant de drone militaire.
Fait qu'il faut être ultra précis.
Oui, genre T-shirt en coton pour homme ou tasse à café en céramique.
OK, mais maintenant qu'un client utilise un code promo valide, comment on gère les rabais sur la facture? Si mon T-shirt à 30 $ est vendu 20 $ avec le code, je mets quoi?
C'est une excellente question. Il faut que tu gardes les traces de la commande montrant la progression mathématique.
Fait que je cache pas le prix original.
Surtout pas. La facture doit montrer le prix de vente original de 30 $ la ligne du rabais de 10 $ puis la valeur finale payée de 20 $
Pour que l'algorithme comprenne pourquoi la valeur est plus basse.
Exactement. Puis c'est le même principe pour les ensembles, les fameux bundles promotionnels.
Ah oui, le coffret cadeau avec plein de trucs dedans.
Ouais, faut ventiler la valeur par article. Les douaniers ont besoin de comprendre la provenance, le code SH puis la valeur de chaque pièce dans la boîte. On ne dédouane pas un coffret générique.
Cela soulève une question. Pardon, je te vole ton expression.
Ah ah, vas-y.
Cela soulève une question importante concernant la cohérence des données.
Oui, c'est fondamental. Les détails douaniers entrés dans ClickShip, la commande de la boutique Shopify ou WooCommerce, la preuve de paiement Stripe, la facture, le bordereau, tout doit correspondre parfaitement.
Zéro contradiction.
Zéro. Parce qu'une fois qu'on comprend l'ampleur de ces exigences documentaires, bien, il est crucial de voir ce qui se passe quand la machinerie s'enraye.
Et ça s'enraye vite. C'est l'effet domino d'une anomalie. Le guide dresse une liste de conséquences assez dramatiques si un colis semble sous-évalué.
C'est un vrai cauchemar logistique. D'abord, le blocage en douane. Ensuite, les retards, évidemment. Les douanes peuvent exiger des inspections physiques.
Puis ça, ça prend du temps.
Beaucoup de temps. Ensuite, ils vont envoyer des demandes de preuve de paiement à l'expéditeur.
Faut chercher les relevés de carte de crédit du client.
C'est ça. Ensuite, il y a les corrections rétroactives des droits, les frais d'entreposage parce que le colis bloque le quai.
Des fois, le colis est juste retourné à l'expéditeur à ses frais.
Et des amendes sévères. Puis le pire, c'est que les transporteurs eux-mêmes stipulent clairement que les clients, donc les vendeurs, sont les seuls responsables de l'exactitude.
Fait qu'ils vont pas te défendre.
Non. Si tu as un vendeur problématique, le transporteur peut même suspendre ton compte vendeur.
Fini les expéditions internationales.
Game over.
Fait qu'on a besoin d'un plan d'action. Le flux de travail idéal. Le guide propose une liste de vérification super simple pour chaque commande.
Oui, une procédure avant même de générer l'étiquette.
C'est ça. 1. On extrait la valeur payée réelle.
2. On confirme les valeurs par article.
3. On vérifie les descriptions, les codes SH, puis le pays d'origine pour être ultra précis.
4. On confirme la raison de l'expédition. C'est une vente, un retour, un cadeau.
5. On crée l'étiquette dans ClickShip en s'assurant que les infos correspondent parfaitement. Et surtout, le plus important, on conserve toutes les preuves de paiement.
Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est important de comprendre que ces règles strictes ne sont pas là juste pour ennuyer les vendeurs, tu sais.
C'est pas juste la bureaucratie pour le plaisir.
Non, elles sont le fondement du système logistique international. Sans ces données, l'automatisation est impossible.
C'est le carburant qui permet aux colis de bouger vite.
Exact. Puis en cas de doute, consultez les ressources officielles comme la SFC, le CBP, l'OMD ou engager un courtier en douane. C'est vital.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour protéger l'expérience du client, pour qu'il reçoive sa boîte avec le sourire puis sans surprise financière, l'exactitude dans coulisses doit être irréprochable.
C'est le résumé parfait. Déclarer la véritable valeur transactionnelle, être précis et tout documenter.
Ouais. Puis en lisant tout ça, ça m'amène vraiment à une pensée un peu provocatrice pour la fin.
Ah, je t'écoute.
T'sais, si les autorités douanières puis les transporteurs exigent désormais un niveau de données aussi chirurgical pour le moindre petit T-shirt, puis qu'ils peuvent suspendre des comptes pour une différence de 20 $ sur un échantillon gratuit, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir des frontières?
C'est vrai que la dynamique a changé.
Complètement. Quiconque gère une boutique en ligne aujourd'hui devrait y réfléchir. Puis on est vraiment en train de passer d'une frontière physique avec des inspecteurs qui ouvrent des boîtes au port à une frontière purement numérique.
Une frontière de données.
Exactement. Où le dédouanement, bien, c'est juste un audit automatisé instantané des données de vente qui se passe avant même que le colis ne quitte l'entrepôt du vendeur. Dans ce monde-là, une seule donnée inexacte sur une facture, c'est pas plus une coquille. Ça pourrait devenir un véritable mur de briques invisible.